Chapitre 7. Frédéric n'aimait pas de sa belle-sœur. Il la trouvait désagréable, acariâtre, grincheuse, vulgaire, sèche, maladroitement intrigante, et il ne comprenait pas que son frère se fût empêtré d'une pareille femme. Il sortit de ce déjeuner furieux contre elle et contre lui-même. Comment être assez naïf pour attendre quelque chose de bon d'une femme qui passe son temps à étudier ses sourires devant les glaces et qui ne dit pas un mot sans se regarder pour voir si elle le dit bien? Ce n'était pas la peine de dépenser son argent pour une pareille grue. Et il s'en alla flâner sur les boulevards à la recherche d'un moyen d'action sur son futur beau-frère. Marchant vite parfois ou bien s'arrêtant devant la devanture d'un magasin et restant là à regarder sans rien voir, cherchant, rêvant. Tout à coup, tournant sur lui-même, il se dirigea rapidement du côté de la Madeleine. Il avait trouvé, et de ce pas, il se rendait aux Champs-Élysées, où le marquis d'Arlanzon occupait le premier étage d'une maison du rond-point. À cette heure, on était sûr de le rencontrer chez lui. C'était le moment, en effet, où, assis dans son fumoir et installé derrière une jalousie, une jumelle à la main, il s'amusait à regarder le mouvement des voitures se rendant au bois, ce qui était un des grands plaisirs de son existence, alors surtout qu'il avait quelqu'un près de lui à qui il put communiquer ses réflexions en lui soufflant à la figure la fumée de ses cigarettes. S'il était follement fier de l'ancienneté de son nom, par contre, il avait horreur de tout ce qui n'était pas à la mode, non celle d'hier, mais celle de demain. C'était ainsi que, dans son appartement, choisi dans une maison neuve, tout était du plus parisien et flambant neuf, brillant, clinquant, frais et coquet, à faire pâlir lors des corniches et de la décoration. Son antichambre était une serre remplie de plantes en fleurs qu'on renouvelait avant qu'elles fussent défraîchies. Sa salle à manger, tendue en velours solferino, était décorée de ses armes brodées en argent sur les lambrequins des rideaux et au dossier des chaises. Comme il changeait son ameublement tous les ans, il ne craignait pas de s'offrir les couleurs les plus fragiles, ne leur demandant que d'être plaisante. C'était ainsi que le meuble du salon en bois doré était recouvert de peluches vert d'eau et que la chambre à coucher était toute en satin bouton d'or. Quant au fumoir, qui devait offrir plus de résistance, il était en maroquin lavalière glacé. Peu de tableaux au mur et seulement quelques toiles et quelques aquarelles remarquées aux dernières expositions pour leur élégance et qui n'avaient pas le temps de se démoder chez lui car il faisait sa vente tous les 2 ou 3 ans et renouvelait ses œuvres d'art comme son mobilier. Autour de lui, rien ne devait vieillir. Lorsque Frédéric fut introduit dans le fumoir, il trouva le marquis allongé sur un canapé, la lorgnette à la main. Il se tenait là, calé avec 2 coussins, vêtu d'un veston blanc en voile de religieuse doublé de soie bleue, et, à le voir ainsi, sa chevelure noire frisée, les yeux brillants et ardents, les mains gantées de longue en de Suède montant plus haut que le poignet, la taille prise dans un gilet bien ajusté, on n'eût jamais cru qu'il avait les 55 ou 56 ans que lui donnaient ceux qui le connaissaient, mais 38 ou 40 à peine. Retirant sa cigarette de ses lèvres, il tendit la main à Frédéric. « Vous êtes 1000 fois gracieux de venir me voir, » dit-il avec un léger accent. « Comment est la santé de monsieur votre père? Il me néglige comme si je n'étais pas l'un de ses amis. Et votre charmante sœur? Quel délicieux enfant! Ravissante, séduisante. » C'était chez lui monnaie courante que les compliments. On était toujours fort de ses amis, même quand il vous connaissait à peine. Et pour les femmes, il n'avait pas assez d'adjectifs laudatifs, même quand il ne se rappelait pas leur nom. Frédéric ne devait pas se laisser abuser par ces épithètes adressées à Geneviève. Cela voulait dire « votre jolie petite sœur, rien de plus ». Mais il importait à la réussite de son plan qu'il parut les croire sincères, ce qu'il fit. « Je ne saurais vous exprimer, dit-il, combien l'intérêt que vous témoignez à ma sœur me rend heureux. »« Elle est délicieuse, ravissante, dit le marquis, plus riche en élan qu'en paroles pour les exprimer, et qui répétait volontiers les mêmes mots, faute d'en trouver d'autres. Ravissante, délicieuse. » La dernière fois que je l'ai entendue, elle m'a fait un plaisir extrême. Elle est fort de mes amis, positivement délicieuse, ravissante. Tout en parlant, il avait braqué sa jumelle à travers les lames de la jalousie disposée pour cet usage, et il regardait une Victoria qui montait l'avenue. Une femme, élégamment habillée, était allongée dedans, et deux jeunes gens à cheval l'accompagnaient. « Quelle tournure !» dit-il en désignant les jeunes gens. « Voyez comme ils montent. Il n'y a plus de jeunes gens. » Frédéric approuva de la tête et des épaules. Puis, quand la Victoria eut disparu, il revint à son sujet. « Puisque vous éprouvez de la sympathie pour ma sœur, cela m'a enhardi à vous demander un renseignement et un conseil. Je suis tout à vous. » Mais, avant d'être tout à Frédéric, il braqua encore sa lorgnette sur un groupe de cavaliers qui montaient l'avenue. « Vous connaissez le duc d'Arcala ?» demanda Frédéric. « Grand nom, belle fortune !» Avant d'hériter du titre et de la fortune de son frère, le duc actuel d'Arcala ne s'appelait-il pas Inigo de San Esteban ? Parfaitement. Et n'est-ce pas à lui qu'est arrivée une certaine aventure ? Il a été jeté dans ce bassin qui est là sous mes fenêtres par le prince Savine. Cette aventure n'entache-t-elle pas son honneur ? Le marquis ne répondit pas. « Est-ce un homme qu'on puisse admettre dans une famille ?» continua Frédéric. Et comme le marquis, au lieu de répondre, regardait avec affectation dans les Champs-Élysées, Frédéric insista. « Je vois, dit-il, que je m'y suis pris maladroitement dans mes questions. Au lieu de commencer par vous parler du duc d'Arcala, j'aurais dû d'abord vous expliquer à quoi devaient servir les renseignements que je vous demande. Sachez donc, que le duc a entendu ma sœur dans deux ou trois maisons et qu'il s'est pris pour elle d'un enthousiasme extraordinaire. Passionné pour la musique, le duc, et le talent merveilleux de votre ravissante sœur explique très bien cet enthousiasme. Mais nous avons tout lieu de croire que c'est pour la musicienne qu'il s'est passionné. Une enfant ! Une enfant, oui, peut-être, mais cet enfant, dans quelques mois, sera d'âge à se marier. D'ailleurs, quand on est précoce pour le talent, on l'est pour tout. Mais le duc a plus de 50 ans. Ce n'est pas l'âge du duc qui nous préoccupe. Nous avons de bonnes raisons pour ne pas redouter les mariages dans lesquels la femme est plus jeune que son mari. Mon père, vous le savez, a épousé une femme beaucoup plus jeune que lui, et je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir plus heureux ménage que le sien. Dans la bouche d'un beau-fils, c'est là une appréciation qui a sa valeur. Mon père est adoré par sa femme. Il est un dieu pour elle. Il est aimé avec tendresse, il est aimé avec respect, il est pour elle un père et un mari à la fois. Soin dans sa vie matérielle, prévenance dans les choses du cœur, il trouve près d'elle tout ce qu'il peut désirer, tout ce qu'il a pu rêver. Je me figure que ce doit être une joie profonde quand la jeunesse vous abandonne, de la retrouver dans sa compagne avec tout ce qu'il y a de bon et de charmant en elle. Au reste, cela doit produire un effet de rajeunissement chez l'homme, car on voit ses vieux maris ne mourir jamais. » Il fit une pause là-dessus, pensant que ce dernier argument avait dû toucher le marquis, qui était connu pour son effroyable peur de la mort, puis il continua. « Et si ma sœur devait devenir duchesse d'Arcala, je suis sûre qu'elle serait pour son mari ce que ma belle-mère a été pour mon père. Et même beaucoup plus, car il n'y a aucune comparaison à établir entre elle et ma belle-mère, ni pour la beauté, ni pour les qualités morales, ni pour celles de l'esprit. Je ne sais si c'est l'amour fraternel qui m'aveugle, mais je la trouve... Mon Dieu, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le marquis, délicieuse, ravissante. Elle donnerait de la gaieté à un hypochondriaque, et avec cela cependant, elle a déjà un sérieux dans l'esprit et dans le caractère qui assure sa vie et celle de son mari contre toute aventure. D'ailleurs, c'est un cœur si sensible à la reconnaissance qu'elle serait en adoration devant un homme comme le duc qui s'appliquerait à faire son bonheur. » De nouveau, il fit une courte pause, puis il arriva à sa conclusion qui, elle aussi, avait été préparée. « Voilà pourquoi j'ai pensé à vous consulter. Ma sœur ignore tout, car sa pureté et son innocence devinent peu de choses, et avant que l'affaire aille plus loin, j'ai voulu vous demander ce que vous pensiez de cette aventure du duc. » Le marquis hésita un moment. « Elle est à peu près oubliée aujourd'hui, » dit-il enfin. « Cependant, je reconnais qu'elle a été fâcheuse. » Frédéric se leva avec dignité. « Il suffit, » dit-il, « ce à quoi nous étions sensibles, mon frère et moi, dans ce projet de mariage, c'était à l'honneur que nous aurait fait le duc. L'honneur manque, ce projet n'existe plus. Ma sœur est une Mucidan. »